Chapitre 4. Henri d'Agincourt sortit de la conservation des forêts à 4 heures, sous prétexte d'une expédition à faire sans retard au bureau des messageries maritimes, passé l'œil vague, le regard sombre et là, au milieu de la cohue du port, sans que rien pût distraire son esprit de la préoccupation qui l'absorbait. Quai de Bacalan, 13, 19, 23, voilà. Une maison propre, de construction simple, basse d'étage et percée de nombreuses ouvertures indiquant l'extrême amoncellement des appartements, l'exiguïté des pièces, comme dans toutes celles qui sont destinées par l'architecte à abriter des familles d'ouvriers. Un long couloir au milieu, divisant l'immeuble en 2 corps de logis distincts et conduisant au fond à un 3e pavillon semblable aux 2 premiers. Une femme, un mioche sur le bras, traverse le couloir. Henri l'interroge. « Madame Mazerat, s'il vous plaît. »« Oh, la pauvre, elle va bien mal, monsieur. »« Où habite-t-elle ? » ?»« Ah, vous ne savez pas ? Tenez, là-bas, au bout du couloir, la 2e porte à gauche. » Henri remercie, salue, baisse la tête, accablé, et continue. Mais il n'a pas fait 10 pas qu'une main se pose sur son bras, familière et craintive à la fois, l'arrête. « Je vous en prie, n'allez pas plus loin. Maman ne sait pas, ne comprendrait pas, ça lui donnerait un coup. Puis, elle supposerait peut-être que vous êtes... » Angèle se tait, la gorge serrée, les yeux à terre. De sa fenêtre, qui donne en face du couloir, elle a vu venir de loin le garde général, et vite, vite, elle a mis son chapeau, jeté son fichu sur ses épaules, et elle a couru au-devant de lui pour l'empêcher d'entrer. Pourquoi ? Elle ne sait pas. Ça a été un mouvement instinctif. Elle a bien fait tout de même. Sa pauvre malade n'aurait pas compris. La présence de cet étranger l'aurait révolutionné certainement, aurait sans doute éveillé chez elle un soupçon... Elle ne veut voir personne, d'ailleurs. Docilement, Henri a tourné les talons immédiatement. Mais tout bas, il murmure. « Je voudrais vous parler, pourtant, Angèle. Je voudrais... Venez avec moi, nous causerons en marchant. » La jeune fille devient toute rose de plaisir, puis pâle d'émotion, et son cœur bat à coups précipités dans sa poitrine, dont les lignes délicates se dessinent sous le corsage de cotonnade légère que recouvre mal le fichu de laine. Mais elle n'est pas habillée. Ses cheveux, ses beaux cheveux noirs, sont en broussaille. Peut-elle sortir ainsi ? Bah, tant pis. Elle a pris son parti résolument, elle ne discute plus, elle suit le jeune homme, comme le fer suit l'aimant. Mais tout à coup, dehors, elle est prise de peur. Elle songe que tous les locataires de la maison vont la voir, l'ont vue déjà sortir avec ce monsieur, et elle soupire. « Ah, mon Dieu, que va-t-on dire ? On s'imaginera que... Enfin, s'il fallait faire attention à tous les bavardages... » Henri n'a rien répondu. D'un simple signe de tête, il approuve la dernière réflexion. Mais, au fond, il se morigène, car il a compris tout de suite son imprudence. Trop tard, malheureusement. Alors il presse le pas, sans souffler mot, sans savoir où il va, et Angèle le suit toujours, timide, docile. Quelques minutes se sont écoulées, ils sont loin maintenant, au-delà du bassin à flots, à l'entrée de la rue de Lormont. Et le jeune homme se décide. Il y a juste un mois, aujourd'hui, Angèle, que je vous ai rencontrée dans des circonstances bien étranges. Pourquoi ne vous ai-je pas revue depuis ?
Pourquoi ? Pourquoi ? N'était-ce pas vous ? Ne m'aviez-vous pas promis ? Non, non, pardon, je déraisonne. C'était à moi d'aller vous voir, d'aller vous remercier de votre bonté. Vous ne m'avez pas oublié, vous. Vous n'avez pas oublié votre promesse de venir à mon aide. « Oh, lorsque j'ai reçu votre carte, avec ce mot si cordial, presque affectueux, votre carte et la lettre de recommandation pour M. Sirdel qui l'accompagnait, j'ai été bien heureuse, oui, bien heureuse. Puis, lorsque j'ai eu fait la démarche que vous me conseillez, J'étais si confuse, je n'ai plus osé me présenter chez vous pour vous exprimer la gratitude que je vous devais, malgré mon échec. Pardonnez-moi.
Vous avez échoué, ma pauvre petite amie. J'espérais déjà que votre entrée à l'usine Cirbel avait changé votre situation. Cirbel, un ami, m'avait promis formellement, absolument.
Angèle, toute rouge, tenait obstinément ses yeux baissés.
Hélas, soupira-t-elle quand elle se fut remise.
Monsieur Cirbel est jeune, il est habitué à exiger de ses ouvrières certaines complaisances. Il a voulu, et il m'a laissé entendre. Ah, monsieur, épargnez-moi.
Les yeux du jeune homme flambèrent.
Lui, s'écria-t-il, il a osé. Oh, le misérable, ma pauvre petite Angèle, c'est affreux, n'est-ce pas? Vous ne pouviez pas vous attendre, et vous avez préféré, oui, vous avez préféré sacrifier votre pain.
Elle lui jeta simplement un long regard de reproche.
Oui, poursuivit-il, je perds la tête, bien entendu que vous avez refusé, ça ne se demande pas, ça. Ah, la brute, le coquin, pauvre petite Angèle.
Et il parlait, d'un ton las, désolé, la bouche crispée amèrement, tenant dans sa main la main de la jeune fille qu'il pressait doucement. Un grand frisson brusquement le secoua.
Voyons, suis-je éveillé? Non, je rêve plutôt.
Il se pressa le front, se frotta les yeux, mais il n'eut plus le courage de parler. Il songeait.
Cette colère terrible en apprenant l'ignoble ultimatum de Cirbel.
Pourquoi? La seule indignation de l'honnêteté froissée?
Non.
Pourquoi cette jalousie mordant soudain son cœur?
Pourquoi?
Est-ce que Angèle ne lui serait pas indifférente? Oh! Après un long silence, il se décida à se tourner vers la jeune fille. Son triste et doux regard était attaché sur lui. Et il vit une larme, une minuscule gouttelette de cristal, trembler au bout de ses grands cils bruns. L'émotion le gagnait, lui ferma la bouche d'abord. Il dut attendre quelques secondes pour pouvoir ajouter
« Voici la nuit close, Angèle, rentrons. Voulez-vous me reconduire un peu ?»
Ils remontèrent le quai. En route, il reprit
« Alors, depuis cet échec, vous n'avez rien trouvé ?»
Pas la plus petite occupation. Mais comment vivez-vous, mon Dieu?
Ah, comment? D'aumônes ou d'expédients?
Il ne répondit pas, le cœur affreusement serré. Il cherchait, sans le découvrir, hélas, un moyen de secourir la pauvre enfant sans la blesser. Ils arrivèrent ainsi, toujours silencieux, jusqu'au milieu du quai des Chartrons. Le jeune homme s'arrêta.
Je vous quitte, Angèle, dit-il. « Votre présence près de votre mère est utile, il ne faut pas l'en priver plus longtemps. »«
Merci. Toutefois, je ne veux pas que nous nous séparions sans que vous m'ayez promis une chose. »«
Laquelle ?»«
C'est d'accepter ce que je vous enverrai demain matin. »«
Oh, non, monsieur, je vous en supplie, rien, n'envoyez rien. »
Il fit un geste de désappointement, mais insista de nouveau.
« Pas d'argent, bien entendu, oui, je comprends votre délicatesse, pas d'argent. Mais du bouillon, des médicaments pour votre mère, de la viande pour elle et pour vos petites sœurs, et pour vous aussi, vous qui dépérissez d'anémie. »«
Non, ce n'est pas la peine. »«
Si, c'est convenu. »
Et pour l'empêcher de s'en défendre, il brusqua la séparation. « Allons, au revoir, retournez vite chez vous. » « Moi, je m'arrête ici, j'ai quelque chose à prendre chez moi. »«
Chez vous? Vous n'habitez donc pas rue du Palais Gallien ?»«
Ma mère et moi, nous habitons rue du Palais Gallien. Moi, de plus, j'habite encore ici, sur le quai, deux petites chambres que j'ai louées pour venir prendre l'air de temps en temps. » La jeune fille poussa un soupir.
« Deux chambres que vous avez louées, surtout ?» ajouta-t-elle. Pour les jours où vous avez besoin d'être loin des regards de votre mère. »
Le garde général répliqua après une seconde d'hésitation.
« Vous êtes méchante, petite Angèle, et soupçonneuse. Eh bien non, ce n'est pas ce que vous croyez. Cette garçonnière n'a pas été destinée à abriter ce que vous laissez entendre. J'ai pris ça il y a 3 mois parce que réellement, j'avais besoin d'échapper par moments à l'ennuyeuse atmosphère de notre appartement de la rue du Palais Gallien. Ma mère, en vieillissant, est devenue tracassière. Certaines divergences de vues sur bien des questions, en particulier sur celle de mon avenir, nous avaient rendu la vie commune très lourde. Je me suis procuré cette installation distincte pour éviter de trop fréquents froissements. Voilà la vérité, toute la vérité, fit simplement Angèle en souriant. Au revoir, répéta Henri, et à bientôt. Comme tu rentres tard aujourd'hui, glapit Madame d'Agincourt en accourant au devant de son fils, dont elle avait reconnu le pas dans le vestibule. Ah, il n'est pas toujours facile. Mais qu'as-tu ? Reprit la vieille dame. Te voilà une mine impossible. J'ai fait des courses fatigantes, grommela le jeune homme d'un ton maussade. La mère n'insista pas. Ils se mirent à table, silencieux. Après le potage, Madame d'Agincourt hasarda timidement. « Tu ne devinerais jamais qui j'ai rencontré cet après-midi en visite chez les Lamiraux. »« Ma foi, je ne chercherai même pas. »« Madame et Mademoiselle Chabran. »« Charmante, très aimable, Madame Chabran. »« C'est décidément une personne fort distinguée. »« Je regrette de n'avoir pas rendu nos relations plus intimes. » Ah, c'est encore temps, au fait. Quant à Mademoiselle Chabran, elle a paru assez gênée par ma présence, poursuivit la vieille dame. Parbleu, on le serait à moins, répliqua sèchement le garde général. Et il coupa court en parlant d'autre chose. Le dîner achevé, Henri, sous prétexte de travailler, se retira presque aussitôt dans sa chambre. 3 heures après, il n'avait pas encore ouvert un livre, ni pris la plume. Il rêvait. Or, plus il réfléchissait, plus il tendait à se convaincre que Lucienne et Josiane étaient presque autant l'une que l'autre, deux petites pimbèches froidement égoïstes, et qu'Angèle seule avait beaucoup, beaucoup de cœur. La belle avance! Ah, si l'on savait combien les méditations, poussées trop loin, sont souvent dangereuses !